6h04, lundi 25 mars. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Très belle journée. D'abord, ce matin, c'est autour de moins 6 degrés. Ciel dégagé, on prévoit du soleil toute la journée. Zéro, c'est le maximum prévu. Même scénario pour demain, zéro. Et mercredi, on prévoit du soleil 7 degrés. Davantage de nuages pour jeudi, de la pluie intermittente. Et vendredi, soleil-nuage autour de 7 degrés. Donc, une semaine quand même assez bien. Des températures aussi confortables. C'est pas encore assez chaud à notre goût. On a hâte de taper le 10-12 degrés, mais ça s'en vient tranquillement dans les prochains jours. Alors, évidemment, ce matin, on commence par la grève des chauffeurs de taxi. Je vais aller tout de suite joindre Philippe Bonneville, qui est aux Galeries d'Anjou, qui est un des deux points de ralliement des chauffeurs, l'autre étant au Carrefour Laval. Alors, Philippe, évidemment, à cette heure-ci, il n'y a pas grand monde, mais il faut bien sûr rappeler là que ça va durer 12 heures, cette grève aujourd'hui.
Oui, grève entre 7 heures ce matin et 19 heures ce soir. Lieu de rassemblement, tu l'as mentionné, Carrefour Laval et aussi ici où je me trouve, donc du côté des Galeries d'Anjou. Les chauffeurs qui vont se rassembler ici vers 7 heures ce matin, c'est le mot d'ordre. Une fois les rassemblements effectués, tant à Laval qu'ici dans l'est de Montréal, les chauffeurs, ce qu'ils ont l'intention de faire, Paul, c'est de se déplacer en cortège via l'autoroute 40 et via l'autoroute 15. Ça va assurément perturber la circulation, ça c'est certain. Et ces deux cortèges-là vont se diriger vers une destination finale. Destination finale qui demeure inconnue pour l'instant. C'est que les organisateurs veulent garder un effet surprise. Mais disons qu'une des cibles potentielles qu'on pourrait imaginer, ce serait peut-être les bureaux du ministère des Transports qui est situé sur le boulevard René-Lévesque en plein centre-ville. C'est une des possibilités, mais il n'y a rien d'officiel, rien de confirmé par les organisateurs. Et à cette heure-ci, bon, j'ai fait le tour, moi, des Galeries d'Anjou ici autour. Tous les stationnements sont vides. Il n'y a aucun chauffeur d'arrivée, mais on peut penser que ces chauffeurs-là vont arriver au cours de la prochaine heure. Et autre chose, faut vous dire que, bon, cette grève-là, elle a lieu, oui, dans la grande région de Montréal, mais c'est une grève générale partout au Québec aujourd'hui. Perturbation du service habituel de taxi, mais aussi des taxibus, du taxi collectif, du transport adapté. Il faudra surveiller, Paul, si tous les chauffeurs vont suivre le mot d'ordre aujourd'hui, ou s'il y a des chauffeurs qui seront tentés, par exemple, d'aller faire de l'argent pendant que les autres font la grève, par exemple, en se dirigeant vers l'aéroport Montréal-Trudeau ou en faisant des courses ici et là. Donc, on sait que parfois le mouvement n'est pas toujours généralisé lorsqu'il y a des grèves du côté des taxis. Ce sera donc à surveiller au cours de la journée.
Merci, Philippe. On va se reparler un petit peu plus tard. Philippe Bonneville en direct des Galeries d'Anjou. Et peut-être juste pour ajouter également, la STM nous dit son intention d'honorer les déplacements déjà réservés pour lundi pour ce qui est du transport adapté, à l'exception des déplacements prévus pour la clientèle qui fréquente les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et les ateliers de travail. Les gens ont été informés, donc si vous aviez recours à ce service ou quelqu'un de votre famille, ben, normalement, on vous l'a dit qu'il n'y avait pas de service. Et les taxis collectifs sont aussi annulés pour aujourd'hui. Alors, Philippe pose une très bonne question. Est-ce que le mouvement sera suivi par tous les chauffeurs? Ça reste à voir. Je peux vous dire, j'ai reçu énormément de courriels. D'abord, essentiellement de chauffeurs, de conjoints de chauffeurs de taxi aussi, qui parlent de l'impact de la décision du gouvernement sur les finances de leur famille, mais aussi de gens qui me disent, et je vais vous en lire un, là, puis c'est pas de la provocation ce matin, mais j'aimerais ne pas dire ma région et mon nom, pas de trouble. Je voulais vous aviser que mon conjoint est propriétaire d'un taxi et que nous avons communiqué aussi avec des taxis de d'autres régions. Et si tout va bien, il n'y aura pas de grève aujourd'hui dans notre région. Alors, je ne dirai pas laquelle, là. Malgré le fait que nous sommes dévastés, dû au fait que la valeur des permis sera nulle bientôt, nous ne croyons pas que la grève est une bonne solution et mettre la clientèle et les citoyens dans une situation qui leur causerait des ennuis n'est pas envisageable pour nous. Nous essaierons de trouver des façons de nous faire entendre par les bonnes personnes et de les sensibiliser à notre cause. Nous vivons des moments de grande insécurité et nous désirons garder la confiance de la clientèle et de l'opinion publique. Alors, c'est sûr, c'est pas comme un mouvement syndical où il y a des lignes de piquetage et on n'a pas accès, c'est plus difficile à contrôler, premièrement. Deuxièmement, c'est une grève qui va durer 12 heures. Quelles seront par la suite les autres étapes? Le gouvernement ne donne pas de signaux de vouloir reculer parce que l'enjeu le plus important, c'est la compensation reliée à la valeur des permis. Et là, Québec dit être allé au maximum la capacité de payer des citoyens. D'un autre côté, vous avez les chauffeurs qui disent que ça représente très peu et que c'est mettre une pression financière incroyable sur des familles. Et pour avoir lu beaucoup vos courriels en fin de semaine, là, je pense aux chauffeurs de taxi, c'est clair là, qu'il y a une perte. Je serais curieux de voir l'opinion publique parce qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, quand on a déréglementé l'industrie du transport, j'ai payé pour, moi aussi j'ai perdu de l'argent. » On peut faire tout un débat là-dessus, mais c'est clair que pour beaucoup de propriétaires de taxi, des gens qui ont acheté des permis à haute valeur, là, 150, 200 000 $ et même plus, c'est assez stressant pour l'avenir. Et l'autre réalité qu'on va surveiller aujourd'hui, c'est que Uber va en profiter. Là. S'il n'y a pas de taxi à Montréal, là, Uber va augmenter les tarifs. C'est comme ça que ça fonctionne, le tarif dynamique, là, pour reprendre l'expression. Et c'est sûr qu'ils vont faire du transport de personnes durant la journée. Deuxième sujet ce matin, ce sondage Somme-Cogeco, nouvelle 98.5, sur le mouvement de lutte au changement climatique. Il y a des choses très intéressantes là-dedans. D'abord, on revient sur la manifestation du 15 mars. Et disons que c'est assez positif. On pense que ce mouvement-là était un mouvement de cœur et de conviction. 54 % des Québécois pensent que ça a un impact positif. Est-ce que vous croyez que ce mouvement n'est qu'un prétexte pour manquer des cours? Ça, on l'a entendu pas mal cette journée-là. 74 % des Québécois pensent que non, pensent qu'autrement dit, la motivation était sincère et réelle. Autre élément qui est intéressant, ça, de façon plus large, concerne les changements d'habitude de vie. Il y a seulement 12 % des Québécois qui disent ne pas avoir modifié leur façon de vivre. Puis quand on se regarde, là, puis pour avoir fait des tribunes téléphoniques là-dessus, les gens sont quand même conscients. Moins de sacs de plastique, plus de récupération, essaient de limiter le gaspillage alimentaire, consomment moins de viande, achètent plus de nourriture en vrac, peut-être tendance à aller vers le transport en commun, moins le véhicule. Et c'est surtout vrai là chez les 18-24 ans, moins de voitures et donc différents modes de transport alternatifs. C'est dans une proportion de 38 % et évidemment, l'idée de moins voyager, par exemple, ça, c'est pas très, très populaire. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a quand même une prise de conscience, je pense que c'est le premier constat qu'on peut faire, et que les gens posent quand même des petits gestes au quotidien. Là, vous m'écrivez tout le temps en me disant, « Monsieur Arcand, le Canada, ça représente pas grand-chose sur la planète et que même si on est plus conscient, plus vert, ça a peu d'effet. » Bien sûr que ça a peu d'effet. Mais l'idée, c'est pas de penser qu'on change la planète à partir du Canada. L'idée, c'est, et c'est pas juste pour des questions environnementales pures, il y a des questions de qualité de vie, il y a des questions de santé, il y a des questions personnelles, il y a des questions d'argent aussi. Il y a un paquet d'enjeux et de prétendre que, bon, on va attendre que la Chine fasse quelque chose, puis mettons de la pression sur la planète, sur les grands pays, puis après ça, on verra ce qu'on peut faire. Ben moi, je ne suis pas de cette école-là. Je pense qu'on peut poser des gestes au quotidien. Puis c'est pas une révolution. Puis c'est ce qu'on fait de temps en temps quand Émile Proulx-Cloutier vient nous voir. Il va revenir là, dans les prochaines semaines avec des exemples de gens qui modifient un peu leur façon de faire. Donc, sondage ce matin de la Maison Somme. On va aller retrouver Marc, évidemment. C'est un début de semaine qui se passe comment? Merci. Grosse journée hier à Washington avec la présentation des conclusions de l'enquêteur Mueller sur la collusion présumée entre les Russes et l'organisation de Donald Trump. Alors, que conclut M. Mueller et son équipe après 22 mois d'enquête? D'abord, qu'il n'y a pas de collusion prouvée entre Donald Trump, son équipe, son organisation et les Russes. C'est sûr que les Russes, ça a été largement démontré, ont tenté et ont peut-être même réussi de manipuler l'opinion publique à la faveur de M. Trump durant les élections de 2016. Est-ce qu'il y a eu des liens? Est-ce qu'il y a des preuves qui montrent que Trump était personnellement au courant de ces manœuvres, de cette collusion? La réponse est non. Est-ce que des gens de son entourage ont participé à cette opération? La réponse est non également. Il y a plein de personnes autour de Trump qui ont été arrêtés, qui ont été condamnés pour avoir soit menti, soit eu des pots de vin, de l'argent, des fraudes fiscales. Bref, des gens qui ont quand même eu des relations avec les Russes. Les Russes tournaient autour de Trump. Tout ça part évidemment des fameux WikiLeaks, alors qu'on a eu accès au courriel privé du Parti démocrate et une partie également de documents compromettants pour Hillary Clinton. Donc, c'est sûr qu'il y avait un intérêt. Maintenant, ce que Mueller dit, c'est que dans le cas de la collusion, je peux rien démontrer. J'ai pas de preuves qui touchent Trump directement. L'autre question, est-ce que le président a tenté de faire de l'obstruction à la justice? La réponse, je ne peux pas l'exonérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai trouvé des affaires, mais j'en ai pas assez. Et ça, je rappelle que ce dont on parle, c'est ce que le procureur général des États-Unis, nommé par M. Trump, est venu nous dire à partir du rapport. Et là, vous avez évidemment pression politique pour que le rapport au complet soit rendu public. Les démocrates, entre autres. Mais si on veut être très réaliste ce matin, c'est une victoire pour le président Trump, qui d'ailleurs s'est pas gêné pour dire hier que c'était une chasse aux sorcières, comme il le répète depuis des lunes, et que c'était honteux qu'un pays comme les États-Unis soit tombé là-dedans et qu'il ait exonéré totalement, ce qui n'est pas vrai. Dans le cas de l'obstruction à la justice, il y a encore là un point d'interrogation. Et l'obstruction, c'était pourquoi? Pour empêcher qu'il y ait une enquête. Alors, quel était son intérêt de bloquer une enquête s'il n'avait rien à se reprocher? Et c'est sûr qu'il y a eu des liens entre les Russes, l'organisation Trump, que ce soit pour la construction d'un hôtel Trump à Moscou, et le gendre également qui avait des liens privilégiés. Et on pense d'ailleurs que beaucoup de Russes, plus ou moins légaux, honnêtes, ont aidé à financer la dette de l'organisation Trump. Et il y a toujours des enquêtes en parallèle sur les activités financières, sur des cas de fraude également, même des fraudes d'assurance, dans le cas de M. Trump. Alors, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'impeachment, là, de destitution du président avant les prochaines élections. Et là, c'est une bataille pour savoir, est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on cache dans le rapport? Est-ce qu'on va avoir la publication au complet de ces 500 quelques pages là, de conclusion de l'enquêteur Mueller? Ensuite de ça, bon, à chaque fin de semaine, on a toujours droit à nos événements. Je ne suis pas raciste, mais il y a une série de cas dont on va parler, notamment cette conseillère municipale d'Anjou, Lynn Shand, qui, sur Facebook, puis ça a été repris sur Twitter, là, largement partagé hier, il y a même la mairesse Valérie Plante qui a réagi, elle avait un problème à un œil. Elle a dû consulter d'urgence, donc examen par un médecin, finit par le dire, ça bafouille un peu. Et là, elle fait toutes sortes de commentaires où elle dit, par exemple, « J'aurais refusé de me faire traiter par elle parce que elle était voilée. » Voilée, là, j'imagine, c'est le hijab. Elle dit « Moi, j'aime pas ça. » Et là, tu dis « Bon, OK, elle aime pas ça. » Là, je rage, car c'est vraiment de voir qu'on est en train de islamiser notre pays. Les musulmans veulent convertir les planètes à l'islam par l'immigration massée. Avez-vous remarqué que dès qu'on voit une femme voilée, il y a une poussette ou un carrosse puis un bébé? Puis pendant ce temps-là, on retire le crucifix la salle du conseil de l'hôtel de ville. Et elle n'arrête pas d'en remettre. Je suis contre toute forme d'extrémisme. Mais c'est presque une des seules religions qui montre des signes ostentatoires avec des femmes voilées. Alors, ça n'a pas été bien reçu. Elle a tenté de nuancer par la suite. Son maire, qui est également de son parti politique, Luis Miranda, a dit qu'évidemment, il n'était pas d'accord avec ça, puis que c'est à elle de s'organiser puis de clarifier sa pensée. Bon, le Parti québécois Conseil national, en fin de semaine, essentiellement, le Parti québécois se cherche, se demande où aller. Et à part la question de la souveraineté, tout est sur la table. Et Bernard va nous en parler, il a assisté à l'événement à Trois-Rivières. Alors, c'est ce qu'ils appellent l'exercice de refondation du Parti québécois. Et on sait que les jeunes ont commencé à s'exprimer beaucoup. Et ils ont tenté d'obtenir un quota de délégués de moins de 40 ans pour le congrès qui aura lieu au mois de novembre. La réponse a été non. Et là, tu as des militants plus âgés qui ont dit « Coudonc, là, est-ce qu'on fait de l'âgisme au Parti québécois? » On comprend que les jeunes ont leur mot à dire, que les jeunes doivent s'exprimer. Mais c'est pas vrai là, qu'on va commencer à tasser les vieux puis que les vieux n'ont pas quelque chose à dire dans l'avenir du parti. Alors, on avait proposé que la moitié des délégués de circonscription pour le Congrès aient moins de 40 ans. Et là, ça ne fait pas l'affaire, évidemment, de tout le monde. Mais au-delà de ça, c'est sûr que le parti cherche. Il n'y aura pas de course au leadership avant 2020. Et là, j'ai compris en fin de semaine qu'on jongle avec l'idée d'ouvrir le vote à d'autres que des membres du parti. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas membre du PQ, mais vous pourriez voter pour le chef du PQ. Pas certain de la pertinence d'un exercice comme ça. Je sais pourquoi on veut le faire, là, pour élargir. Puis chercher une adhésion, tu sais, parce que le PQ n'est plus le véhicule qu'il était. Alors, c'est peut-être une façon d'approcher. Mais, en tout cas, si je me fais certains courriels de militants, là, l'idée n'est pas largement partagée. Maintenant, dans les autres nouvelles aussi ce matin, dans le Globe and Mail, on revient, parce qu'on a peut-être tendance à le négliger ici, là, mais tout le dossier de SNC-Lavalin continue de faire la une. Et ce qui est notamment relevé, c'est que le bureau du premier ministre refuse de dire si oui ou non on avait de l'info sur le dossier SNC-Lavalin, sur des tensions, par exemple, au ministère de la Justice et chez la procureure générale. Semble-t-il que c'est pas tout le monde qui était d'accord avec la position de base de dire « on poursuit, on va devant les tribunaux puis on met de côté l'accord de réparation » et que ces infos, pourtant confidentielles, pourtant protégées par un mur, auraient filtré jusqu'au bureau de M. Trudeau. Alors, pour l'instant, on refuse de dire si, oui ou non, de telles informations ont circulé. Également, aussi en fin de semaine, vous avez peut-être vu les propos de la nouvelle ministre de la Santé, Danielle Mécan, qui invite les gens à dénoncer et à pointer du doigt des situations inacceptables dans le réseau de la santé. Elle dit que les temps changent, qu'il n'y aura pas de représailles contre ceux et celles qui parlent. Vous comprendrez que j'ai un doute et que je suis plus que sceptique. Parce que des enseignants, des fonctionnaires, je reviens tout le temps avec le cas qui est connu de Louis Robert, des gens qui sont des sonneurs d'alerte, là, c'est pas vrai que le gouvernement, contrairement à ce qu'ils prétendent, là, sont tout à fait à l'aise avec ça. Là, elle arrive, mais quand ça va faire 2-3 ans qu'elle est au ministère de la Santé puis qu'il y a des gens qui vont sonner l'alerte pour dénoncer des pratiques de son administration, vous allez voir que le discours risque de changer pas mal. Alors, on peut avoir, disons, un certain doute là-dessus. Ça fait pas mal le tour des manchettes. On va s'arrêter pour la pause. Il est 6h22, le pont Champlain.